Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Mon Paris FM présente votre rendez-vous santé de la semaine. Mon Paris Santé.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mon Paris Santé, votre rendez-vous consacré aux grandes questions de santé qui nous concernent au quotidien. Aujourd'hui, nous parlons d'une maladie génétique qui touche des millions de personnes dans le monde mais qui reste encore insuffisamment connue, la drépanocytose. Pour nous accompagner durant cette 7 heures, nous allons recevoir le docteur Hassania Katetal. Bonjour docteur, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Nous aurons également avec nous notre chroniqueuse Tia Media Handicap. Bonjour Tia.
Bonjour Sonia, comment vas-tu?
Ça va, merci. Et nous avons aujourd'hui des invités, quelques jeunes qui sont présents avec nous pour poser toutes leurs questions concernant la drépanocytose au docteur. Alors, pour commencer, docteur, quelques questions. Première question, qu'est-ce que la drépanocytose?
Alors, la drépanocytose, c'est une maladie génétique. Donc, c'est-à-dire que c'est une maladie héréditaire qui est transmise de génération en génération. Donc, c'est les parents, en fait, qui l'ignorent. Ils sont porteurs sains. Ils ont un gène qui est malade. Ça, ce n'est pas suffisant pour qu'ils expriment la maladie. Par contre, quand on a deux parents porteurs sains qui ont des enfants, ils ont le risque d'avoir un enfant malade. Et là, quand la maladie va s'exprimer, on va avoir des crises douloureuses, une anémie hémolytique chronique et une sensibilité aux infections. Donc, c'est une maladie génétique, ce n'est pas une maladie contagieuse.
Donc, on parle de maladie génétique parce qu'elle se transmet à travers les parents.
Tout à fait.
Qui peut être concerné par cette maladie?
Alors, la maladie est apparue dans des zones de forte pression du paludisme. Donc, ça va concerner beaucoup les gens qui sont originaires d'Afrique intertropicale, de pourtour méditerranéen, de la péninsule arabo-indienne. Donc, on va avoir beaucoup d'afro-descendants, puisqu'on a le continent Afrique, mais aussi on a toute la zone Amérique du Nord, Caraïbes, et puis aussi toute la partie est du Brésil qui va être atteinte. Et ensuite, sur le bassin méditerranéen, on va avoir l'Europe du Sud. Donc, notamment, on a des pics de trait S, une forte incidence du trait S sur la Turquie, la Grèce, l'Italie, par exemple. Et puis, on va également avoir sur la péninsule sous-continent indien, beaucoup de porteurs sains et de malades.
Et qui peut être concerné, femmes, hommes, les deux?
Alors, c'est une maladie qui n'est pas liée au sexe. Donc, en fait, ça touche autant les filles que les garçons. Ce n'est pas une maladie liée au sexe, comme d'autres maladies, comme l'hémophilie, par exemple. Donc là, on va vraiment être sur une maladie qui va autant toucher les filles que les garçons. Après, c'est toujours au hasard, parce que quand on a un couple à risque, par exemple, deux parents porteurs sains, on a un risque sur quatre, donc 25% de risque à chaque grossesse d'avoir un enfant qui est malade. Mais il y a des couples qui n'en ont pas d'enfants malades, et puis il y a d'autres couples, sur trois enfants, ils vont en avoir deux qui sont malades. Ça, après, c'est les hasards de la génétique.
D'accord, donc il pourrait y avoir des personnes qui, on peut dire, sont porteurs sains et d'autres porteurs malades?
Alors en fait, on va utiliser le terme porteur sain vraiment pour les gens qui ne sont pas malades, c'est-à-dire qu'ils vont avoir hérité d'un gène A, de l'hémoglobine, et d'un gène S, qui est le gène malade, de l'hémoglobine. Donc quand on est A plus S, on dit qu'on est hétérozygote, donc là on est porteur sain. Par contre, quand on est malade, on a hérité deux fois de deux copies du gène malade, on a deux fois le gène S. Donc, on est SS, donc S plus S. Là, la maladie, elle va s'exprimer. Et comme je dis souvent, S n'aime pas le stress. Il fait froid, il fait chaud, on est déshydraté, on manque d'oxygène. On a fait un effort important, par exemple, on a fait le marathon. Ben là, le S va s'exprimer et on va avoir les symptômes de la maladie, c'est-à-dire notamment les crises douloureuses. C'est ce qui est le plus impressionnant en général.
D'accord, donc la maladie est très sensible à l'environnement?
Effectivement, il y a une influence de l'environnement, tout ce qui va être variation de température, manque d'hydratation, apparition d'une infection quelconque. Tout ça, ça va effectivement avoir un effet négatif et faire apparaître des complications de la maladie.
Et là, vous avez parlé donc de l'environnement qui peut être un facteur pour déclencher des crises. Mais quels sont les premiers symptômes pour savoir si... Alors, nous sommes porteurs ou pas?
La drépanocytose, en fait, c'est une maladie qui ne se voit pas. C'est une maladie invisible. Donc, on ne va pas juste en regardant un bébé savoir identifier qu'il est malade ou pas. C'est une maladie, en fait, ça, tout se passe dans le sang. C'est-à-dire que, en fait, dans le sang, vous avez, quand on fait une prise de sang, le sang, c'est rouge, il y a plein de choses. Il y a les globules blancs pour lutter contre les infections. Il y a les plaquettes pour faire la coagulation quand on se coupe, par exemple. Et ce qui est malade dans la drépanocytose, ce sont les globules rouges. Les globules rouges, en fait, c'est les transporteurs d'oxygène. C'est-à-dire, ils vont capter l'oxygène dans les poumons et ils vont le diffuser dans tous les organes, dans les muscles, dans les os, etc. Et l'hémoglobine, normalement, quand on prend 10 personnes au hasard, 9 fois sur 10, on va retrouver de l'hémoglobine de qualité A. Donc, l'hémoglobine A, c'est ce qui est attendu, c'est ce qui est le plus répandu. Et c'est cette hémoglobine-là qui va transporter l'oxygène dans les différents tissus du corps. Quand on est malade, on n'a pas la bonne hémoglobine, on n'a pas le bon code génétique, et donc on va fabriquer de l'hémoglobine S. Et c'est cette hémoglobine S qui va avoir cette sensibilité-là et qui va faire que quand il va y avoir un stress extérieur, donc au niveau de l'environnement, ça va être changement de température, déshydratation, etc., et ben les S en fait, vont se coller ensemble et du coup, votre globule rouge va durcir et sa forme va changer. Donc, il va avoir du mal à avancer dans les vaisseaux. Et il va avoir du mal à apporter l'oxygène dans les organes. Et c'est ça, en fait, qui va être à l'origine, notamment des crises douloureuses.
D'accord, merci. Avant de continuer, je vous propose d'écouter la chronique que Tia nous a préparée. Tia, est-ce que tu peux nous dire sur quoi porte ta chronique ?
Alors, oui, bonjour à tous les auditeurs de Mon Paris FM. Bonjour à tous. Justement, la chronique est sur cette maladie qui est donc une maladie handicapante invisible. Comment peut-on faire en sorte de faire comprendre justement cette maladie invisible ?
Alors en fait, il y a plusieurs choses. La chose la plus importante, c'est sensibiliser le grand public et informer, faire beaucoup d'informations. Parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit au départ, les populations initialement concernées, c'est plutôt les afro-descendants et la péninsule arabo-indienne. Mais on est à l'ère de 2026 avec énormément de brassage des populations. Et donc finalement, tout le monde peut être concerné par cette maladie. Parce que je vous ai surtout parlé de la forme homozygote S plus S, mais il y a aussi d'autres formes de drépanocytose où on a S qui va être associé à une autre mutation de l'hémoglobine. S associé à C, par exemple. S associé à la thalassémie, S associé à l'hémoglobine E. L'hémoglobine E, c'est une hémoglobine qu'on va surtout retrouver en Asie du Sud-Est, par exemple. Et tout ça, ça donne de la drépanocytose, ce qu'on appelle des syndromes drépanocytaires majeurs. Donc, c'est important de pouvoir faire de l'information large au grand public pour que les gens, en fait, pensent à se faire dépister et connaissent leur statut. Est-ce que je suis AA, auquel cas, j'ai pas de risque de transmettre la maladie à ma descendance, ou est-ce que je suis porteur sain ? Est-ce que je suis porteur sain AS ? Est-ce que j'ai une autre hétérozygote ? Est-ce que je suis AC ? Est-ce que j'ai un trait thalassémique ? Et ça, c'est important pour les projets parentaux futurs. Parce qu'à ce moment-là, quand on forme un couple à risque, il y a des possibilités d'orienter ces couples vers des consultations de conseil génétique s'ils veulent éviter la naissance d'un enfant malade, par exemple. Mais il faut être dans l'anticipation.
D'accord. Et juste, je te remercie de m'avoir répondu. Et comment peut-on sensibiliser de plus en plus les personnes justement à cause de cette maladie ? Comment c'est possible ? Comment on peut le faire ? Est-ce que les médecins sont là pour justement donner des informations et où aller les chercher ?
Alors, il y a plusieurs niveaux d'information. Il y a effectivement, au niveau médical, les soignants. On est vraiment un premier relais sur cette information-là. C'est-à-dire qu'un médecin généraliste qui reçoit une jeune fille pour une prescription de pilule, c'est le bon moment pour lui dire « Mais qu'en est-il de l'étude de l'hémoglobine ? Est-ce que vous connaissez votre statut de l'hémoglobine ?» Un jeune ou une jeune, ça peut être une fille aussi, qui vient pour un certificat de sport, c'est le bon moment pour parler de la drépanocytose et savoir si la personne connaît son statut. Moi, je suis assez favorable à tout ce qui est diagnostic préconceptionnel, c'est-à-dire on fait son étude de l'hémoglobine avant d'être dans un projet de bébé déjà. Parce que quand on est déjà sur un projet de bébé, surtout si la personne est déjà enceinte, on a quand même l'échéance de la grossesse. Une grossesse, ça ne dure que 9 mois. Or, moi, je pense vraiment sincèrement que ce qui est important, c'est d'être dans l'anticipation, c'est-à-dire de savoir à l'avance si on est porteur ou si on n'est pas porteur. Et en fait, quand on est ensuite dans son projet d'enfant, là, on a déjà cette information-là et on sait vers qui s'orienter si on a ce désir d'enfant et que, par exemple, on forme un couple à risque avec son conjoint ou sa conjointe.
Exactement, tout à fait.
Donc ça, c'est vraiment au niveau des médecins. Et puis après, au niveau des associations et au niveau du grand public, les associations sont également un énorme relais, notamment quand on est à l'occasion de la journée mondiale du 19 juin, qui est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. On a énormément de manifestations qui sont portées par le milieu associatif pour sensibiliser les gens et leur dire, ben voilà, il y a une maladie qui existe, qui s'appelle la drépanocytose, qui touche énormément de gens en France. C'est la maladie génétique dépistée la plus fréquente. Hein. Ça fait partie des maladies qu'on dépiste dans les maternités. Et chaque année, on a 600 bébés qui naissent en France et qui ont cette maladie. Donc, les associations ont aussi un énorme rôle de relais de l'information et de diffusion de l'information sur la drépanocytose et sur le dépistage.
Je te remercie. J'ai une autre question à te poser. Est-ce que cette maladie donc de drépanocytose est considérée comme une maladie handicapante par rapport à la MDPH ?
Tout à fait. Alors, j'ai surtout décrit les symptômes en pédiatrie, c'est-à-dire l'anémie chronique, les crises douloureuses et la sensibilité aux infections. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette maladie, elle évolue à bas bruit. Et il va y avoir des atteintes, ce qu'on appelle les atteintes d'organes, c'est-à-dire que les adultes, ils vont avoir des problèmes au niveau osseux. C'est des adultes chez qui, par exemple, on va parfois être obligé de poser des prothèses. Des prothèses de hanche, par exemple, chez des personnes qui sont jeunes. Ce n'est pas des personnes de 60 ou 70 ans, c'est des personnes de 30 ans à qui on met des prothèses de hanche. Ça, c'est un handicap. On va avoir des personnes qui vont avoir des atteintes cardiaques, des atteintes néphrologiques, etc. Un petit peu comme un diabète, en fait, parce que le fait d'avoir du manque d'oxygène dans les organes, ça va un petit peu les user un peu plus vite. Et ça, effectivement, ça nécessite des fois qu'on mette en place une reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Et donc ça, les médecins adultes qui prennent en charge des patients atteints de drépanocytose, ils connaissent très, très bien ces formalités administratives. Et effectivement, c'est important de pouvoir faire prévaloir ce statut parce que, encore une fois, c'est une maladie invisible. Ça, c'est pas écrit sur le front que quelqu'un a une drépanocytose.
Donc là, en parlant de maladies invisibles, Tia, tu nous as préparé justement une chronique sur la complexité que la maladie engendre dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle des personnes atteintes. Est-ce que tu peux nous la lire, s'il te plaît ?
Alors, je vais la dire tout simplement, comme c'est mon domaine. Tout à fait, Sonia. Donc, les maladies qui sont donc en situation invisible, c'est un peu complexe pour justement se défendre à ce niveau-là. Et le problème aujourd'hui, il y a des maladies invisibles comme les organes. Tout à l'heure, tu as parlé justement de tout ce qui est organes, le cœur. Il y a les vessies, il y a le cerveau aussi. À l'heure d'aujourd'hui, comment peut-on faire accepter aujourd'hui, au niveau de la MDPH, toutes ces maladies qui sont donc invisibles et comment les faire accepter ?
Alors, moi, je n'ai pas la main sur l'organisation de la MDPH, mais ce que je peux dire, c'est que la drépanocytose, ça fait partie des maladies pour lesquelles on peut effectivement faire des demandes auprès de la MDPH, notamment et pour une reconnaissance en tant qu'adulte handicapé. Donc, ça, c'est effectivement une possibilité et c'est régulièrement proposé aux patients qui en ont besoin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est acté, qui est connu et qui est reconnu. Et d'ailleurs, la filière nationale des maladies rares du globule rouge, la filière MCGRE, travaille beaucoup justement avec les associations et avec la MDPH pour qu'il y ait vraiment une reconnaissance de la drépanocytose et que les dossiers soient rédigés de telle façon que les patients puissent vraiment être bénéficiés de cette reconnaissance parce qu'ils en ont besoin.
D'accord. Je te remercie déjà pour cette première réponse, oui. Sonia.
Alors, pourquoi justement cette maladie, elle reste... c'est la première maladie mondiale mondiale ou en France ?
Les deux, ouais. Tout ce qui est maladie de l'hémoglobine, ce sont les maladies génétiques les plus fréquentes dans le monde. Et en France, parmi les maladies qu'on dépiste, il y a un panel de 13 maladies qu'on dépiste en France, la drépanocytose, dans les maladies génétiques, c'est la maladie génétique la plus fréquente.
Alors pourquoi elle reste une des plus méconnues ?
Alors ça, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien comprendre. Elle est méconnue peut-être déjà parce que au sein des populations qui sont concernées, il y a beaucoup de tabous. Les gens n'en parlent pas autour d'eux, n'en parlent pas au niveau familial. Alors ça commence à changer. On voit qu'il y a un changement quand même et je pense que les associations y sont pour beaucoup. Et donc nous, on s'appuie en tout cas en tant que professionnels de santé beaucoup sur le milieu associatif pour justement dédiaboliser un petit peu cette maladie et dire bah, « Ok, j'ai la drépanocytose et alors ?» Il y a plein d'autres choses que je pourrais faire. Et donc, ce n'est pas une sentence de dire que quelqu'un a la drépanocytose. Par contre, c'est une information importante parce que justement, il faut mettre en place les mesures pour pouvoir accompagner la personne dans son quotidien. Déjà, en tant qu'enfant, ça fait partie des maladies qui sont dépistées à la maternité. Donc ça, c'est une chance d'avoir un dépistage néonatal de cette maladie. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Et donc, dans beaucoup de pays, on découvre la maladie sur des complications chez l'enfant. Ce n'est pas le cas en France. Donc, c'est vraiment une chance qu'on a. Ensuite, on a une organisation en filière de santé en France. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'assez exemplaire, puisque ça permet que les enfants, quel que soit l'établissement où ils sont pris en charge, il y a en fait un protocole national de prise en charge. C'est-à-dire que tous les experts nationaux de la drépanocytose se sont mis autour d'une table, ont rédigé en fait des recommandations qui sont appliquées au niveau national. Donc la prise en charge sur l'ensemble du territoire, elle est la même. Il n'y a pas de perte de chance pour un enfant qui a une drépanocytose en France. La prise en charge, elle est la même. Et puis ensuite, chez les adultes, c'est la même chose. Sur le passage chez les adultes, c'est la même organisation. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important.
Si je peux me permettre, Sonia, par rapport à ce qu'elle vient de dire, cette dame, tu disais tout à l'heure, au niveau des associations, il n'y a pas assez de mobilisation à ce niveau-là pour
alors
expliquer.
Moi, je trouve que justement, depuis ces quelques temps, il y a
énormément. Voilà, je voulais voilà.
C'est plutôt au début, il y a beaucoup de. Au niveau familial, il y avait beaucoup de tabous. C'est-à-dire que les gens ne parle pas de la maladie, il y a un enfant qui est malade, on n'en parle pas, c'est tabou, les cousins, les cousines ne sont pas au courant. Or, quand on a
c'est
un enfant...
Parce que c'est l'incompréhension de la maladie, peut-être.
Exactement, il y avait beaucoup de méconnaissance par rapport à la maladie. Et ça, moi, je trouve, là, ça fait maintenant une bonne vingtaine d'années que je suis dans le domaine de la drépanocytose, et je vois quand même un vrai changement. C'est-à-dire qu'en France, oui, parce qu'en fait, je n'ai pas eu la chance de travailler à l'étranger, donc en France, en tout cas, on voit qu'il y a ce changement-là. Et ça, c'est important. C'est important parce qu'il faut en parler pour que les gens, en fait, soient interpellés et alertés et se disent « Ah ben, il faut que j'aille me faire dépister pour savoir si je risque de transmettre à mes enfants cette maladie. »
En parlant de dépistage, est-ce qu'en France, le dépistage a évolué ou c'est toujours le même? Ou est-ce qu'aujourd'hui, en 2026, on a pu faire de nouvelles découvertes ou simplifier les choses?
Alors, sur le dépistage néonatal, pour commencer, il y a eu beaucoup d'évolutions. C'est-à-dire que les premières maternités où on a démarré le dépistage de la drépanocytose, c'était dans les dom-toms. C'était centre caribéen en Guadeloupe dans les années 83, à peu près vers 1983. Et comme l'expérience a bien marché, on a exporté ou importé sur la métropole, sur les grosses maternités d'Île-de-France, Necker, Robert Debré, etc. Et ensuite, à partir de 2000, on a dit, ben maintenant, dans toutes les maternités de France, on va proposer le dépistage néonatal de la drépanocytose.
Mais c'est récent quand même.
C'est assez récent. Donc ça, c'était 2000, avec le bémol que sur les Antilles, donc DOM-TOM, on était sur un dépistage universel, c'est-à-dire que tous les bébés étaient dépistés. Par contre, sur la métropole, on était plutôt sur un dépistage ciblé, c'est-à-dire qu'on regardait le pays de naissance des parents. Est-ce qu'ils sont originaires de l'Afrique continentale? Est-ce qu'ils sont originaires des dom-tom? Est-ce qu'ils sont originaires de l'Inde? Et là, on proposait le dépistage. Depuis le 1er novembre 2024, ça, c'est terminé. Maintenant, pour tout le monde, c'est un dépistage universel.
Quelles que soient les origines.
On ne regarde plus les origines parce qu'en fait, il y a une perte de chance pour certains enfants de ne pas être dépistés. Il y avait des enfants qui n'étaient pas dépistés parce qu'on ne se posait pas suffisamment la question. Et donc, du coup, ils passaient à travers le dépistage néonatal. Donc maintenant, on dépiste tous les bébés depuis le 1er novembre 2024.
Et là, c'est une obligation, c'est systématique ou c'est encore juste une proposition et les parents peuvent accepter ou refuser ?
C'est du systématique et les parents ont toujours le droit de refuser un dépistage pour leur enfant. Et d'ailleurs, chaque année, il y a une petite centaine de parents qui refusent, alors pas que pour la drépanocytose, mais qui refusent qu'on fasse un dépistage néonatal à leur bébé à la maternité.
D'accord. Et au niveau des dépistages, donc, vous parliez tout à l'heure du fait de vouloir, donc avant de vouloir faire un bébé, d'en faire un. Donc même si aujourd'hui, par exemple, l'appel, les deux personnes savent qu'elles ne sont pas porteurs de gènes ou qu'elles n'ont pas la maladie, juste en lien avec nos origines, on doit quand même aller faire le test ou si on l'a, c'est automatiquement. Donc là, on le sait, mais si on n'a pas la maladie, il faut quand même aller faire les tests.
Bah en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on est porteur sain, on n'est pas symptomatique. Donc, ce n'est pas écrit sur le front qu'on est porteur sain ou qu'on est AA. On ne peut pas savoir physiquement si quelqu'un est AA ou AS tant que la personne n'a pas fait la démarche du dépistage. Donc, c'est ça qui est vraiment important. Or, ce qu'il faut réussir à identifier, c'est les gens qui sont porteuses, donc les porteurs sains, parce que c'est eux qui sont susceptibles, peut-être, d'avoir après un enfant qui est malade.
D'accord.
C'est un peu ça, la philosophie. Mmh. En fait, c'est le dépistage, ça permet de distinguer quelqu'un qui est AA de quelqu'un qui est AS. Et quand on est AS, à ce moment-là, l'information, elle est importante. Pas tellement à titre individuel, parce que pour la vie de tous les jours, ça ne va pas changer grand-chose. Mais par contre, quand on va se mettre en couple avec une autre personne et que cette personne aussi va vous annoncer qu'elle est porteuse, là, on va se dire, ah, j'ai 25% de risque d'avoir un bébé malade. Après, chacun a sa vision des choses. Il y a des gens qui vont vous dire, ben moi, je m'en remets au destin, je suis fataliste. Il y aura peut-être des enfants malades, il n'y en aura peut-être pas. Il y en a qui disent, ben écoutez, moi, dans ma famille, j'ai des personnes qui sont malades. C'est une maladie difficile. Je ne souhaite pas avoir un enfant malade. Et à ce moment-là, ils vont avoir recours au conseil génétique pour faire du diagnostic anténatal, voire même du diagnostic préimplantatoire.
Qui va permettre de...
Pour ne pas avoir un enfant qui soit malade, effectivement, SS.
D'accord. Et est-ce que c'est pour les personnes donc, qui sont malades, qui sont SS, est-ce que pour eux, ça va être automatiquement pour leur enfant... Non, leurs enfants peuvent être porteurs sains, même si un ou deux parents, ou les deux parents sont porteurs malades?
Alors, il y a plusieurs cas de figure. Si on est malade, c'est-à-dire qu'on n'a que du gène S, on a deux gènes S. Donc, à chaque fois, on va transmettre du S à ses enfants. Tout va dépendre, en fait, du statut du conjoint. Si le conjoint, il est AA, il n'est pas du tout porteur de la mutation S, ben, il n'y aura pas d'enfant malade. Par contre, les enfants seront tous porteurs sains. Ils seront tous AS. Mais ça, ce n'est pas grave. C'est des enfants en bonne santé. Par contre, si le conjoint, il est porteur sain, il est AS, à ce moment-là, le risque, il n'est pas de 25%, il est de 50% d'avoir un bébé malade SS. Donc, avec une récurrence à chaque grossesse. La récurrence, ça veut dire que ce n'est pas parce que le premier bébé, il est malade, que celui d'après, il ne le sera pas. La récurrence, ça veut dire que on rejoue au loto à chaque fois. C'est ça, la récurrence. Et c'est ça qui est un peu embêtant dans les maladies génétiques, c'est la récurrence.
On parlera, je pense, après une petite pause des conséquences du suivi des familles ou des personnes, des enfants qui sont atteintes de la maladie. Donc, juste après une petite pause musicale. Et on aura aussi l'occasion d'écouter les questions que les jeunes ont préparées pour vous. Merci.
Had me blind, didn't see the context that I fell for a boy with a God complex. Really had me working overtime, cause I've been doing all of the sacrifices. Vampires, vampires sucking on my patience. I don't know, don't ask me, I don't know how one can be so cold. Baby, you're so cold, who made them pseudo? It's too gone to rewind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, my mind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, my mind. Full speed on the way. Don't stop the boy, he can't stay. Done trying, it's a waste of time. He's a one-track mind, my mind. So what up, what up? So what up, what up?
myself out tonight. I'm gonna bring back focus to mine. Oh, la gaily, la gaily. If you say you love me, tell me why, baby, why do you make me cry? What about the things that you told me last night? Gave you all my loving and you gave me goodbye. It's too gone to rewind. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, my, my. That boy is a one-track mind. He's a one-track mind, my, my. Full speed on the way. Don't stop the boy, he can't stay. Done trying, it's a waste of time. He's a one-track mind. He's a one-track mind. Gade chéri, ou pa vle tande, ou pa wè janti gason sa pa merite ou. Ou gen twop shine chéri, ou twop fly, dili bye bye baby, nou son lot bagay.
La geli, la gel, la gel wo.
Pa vle tise, pa vle tise.
La geli, la gel, la gel wo.
Il y en a qui ont l'insuffisance cardiaque, il y en a qui ne sont pas.
De retour sur Mon Paris Santé avec notre invité, le docteur Hassan Yakatetal, et notre chroniqueuse Tia. Rebonjour.
Bonjour.
Alors, pour cette deuxième partie de l'émission, nous avons avec nous quelques jeunes du centre Paris Anime, du 13e arrondissement, centre Oudinet. Bonjour. Qui n'aime pas mon logo. Bonjour les enfants.
Bonjour. Bonjour.
Est-ce que vous voulez bien vous présenter, prénom, âge? Allez, commence.
Moi, je m'appelle Manoé. Je suis en première. J'ai 16 ans et je suis en stage ici.
Bonjour, je m'appelle Aïssatou, je suis en seconde et j'ai 16 ans, je suis en stage ici.
Bonjour, moi je m'appelle Farouk et j'ai 18 ans.
Faut bien parler devant le micro, ah, comme ça on va mieux vous entendre.
Sinon je peux partager le mien.
Non. Du coup, bonjour, je m'appelle Farouk et j'ai 18 ans.
Très bien, est-ce que avant de venir ici, vous saviez ce que c'était la drépanocytose?
Non.
Non. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler?
Vaguement, je sais que c'était une maladie...
Plus proche du micro.
Ouais. Vaguement, je sais que c'était une maladie liée au sang et aux globules rouges. Et après...
T'en avais entendu parler dans quel contexte? Il y a une vidéo qui passait par là, tu sais pas.
Franchement, je sais plus, mais je savais que c'était lié à ces symptômes-là, on va dire.
Au sang.
Ouais, au sang.
Et les autres, non, vous n'avez jamais entendu parler, non. Même pas le nom de la maladie?
Si, oui.
T'en avais déjà entendu parler?
Oui.
À travers quoi?
Il y a quelqu'un que je connais qui a la trépanocytose.
À l'école, avec toi? D'accord. Et donc, c'est une personne c'est elle-même qui t'en a parlé ou tu l'as remarqué par rapport à son mode de vie donc à l'école? Et là, les questions se sont posées?
Non, c'est elle-même, elle m'en a parlé.
D'accord. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as appris déjà à travers cette personne?
Elle m'a juste dit que ça atteignait les globules rouges. Après, les autres, je ne m'en souviens pas trop.
Est-ce que tu vois une différence par rapport à son mode de vie? Donc là, tu es au lycée. De son mode de vie par rapport à toi, par exemple, quand vous avez des examens, est-ce que... Est-ce qu'elle a un tiers-temps par rapport à vous? Est-ce qu'elle s'absente régulièrement? Est-ce qu'elle pratique toutes les activités sportives avec vous? Est-ce que tu remarques quelques différences dans son mode de vie ou tu ne fais pas trop attention?
Elle n'est pas souvent là en cours. Et le sport, elle n'en fait un peu pas beaucoup.
Docteur, est-ce que vous pouvez donc juste nous dire par rapport à l'école, que ce soit l'école élémentaire ou là le lycée, comment ça se passe pour ces personnes-là? Donc on a dit que ça pouvait être dépisté dès la naissance, que c'était reconnu par la MDPH, que c'était considéré comme un handicap invisible. Donc scolairement parlant, qu'est-ce qui est mis en place ou comment ces familles doivent-elles faire pour faire valider l'handicap de leur enfant?
Merci pour la question, c'est vraiment très important. En fait, il y a plusieurs étapes dans la vie de l'enfant. Donc déjà à la crèche, en fait, à partir du moment où le diagnostic de drépanocytose est posé et que l'enfant va être mis en collectivité, on va mettre en place ce qu'on appelle le PAI, le projet d'accueil individualisé. Ça permet déjà que, si par exemple l'enfant a des douleurs à la crèche, on ait l'autorisation de lui donner ne serait-ce que du Doliprane. Parce que sinon, on n'est pas censé donner des médicaments aux enfants en crèche. Ça va être la même chose. En fait, ce PAI va suivre l'enfant pendant toute sa scolarité. Et il va évoluer avec lui aussi. On va adapter les doses de médicaments. On va en rajouter quelques-uns, etc. Et sur ce PAI-là, il va y avoir tous les aménagements liés au temps scolaire et au temps extrascolaire. Dans un premier temps, on va expliquer que c'est un enfant qui a besoin de boire beaucoup. Parce qu'il ne supporte pas la déshydratation. Le S n'aime pas le stress, S n'aime pas la déshydratation. Donc, c'est un enfant qui doit boire régulièrement. Parce que s'il ne boit pas assez, il risque de faire une crise douloureuse. Donc, du coup, le problème quand on boit beaucoup, c'est qu'on fait pipi beaucoup. Donc, il faut qu'il ait l'autorisation de pouvoir aller aux toilettes, même pendant le temps de classe. Donc, tout ça, c'est écrit dans le PAI, dans le projet d'accueil individualisé, et c'est vraiment important. Ensuite, il y a des aménagements sur le sport. C'est-à-dire qu'on ne leur interdit pas de faire du sport. C'est vraiment important qu'ils puissent en faire parce qu'ils ont une anémie chronique. Et du coup, en fait, quand on est anémie, on a tendance à se fatiguer plus vite que la normale. Mais du coup, il faut quand même savoir gérer son anémie et gérer son effort. Donc, c'est important qu'ils aient une activité physique, que ce soit à l'école ou dans un club. Mais il ne faut pas que ce soit du sport intensif. D'accord, c'est-à-dire que, par exemple, moi, je suis quelques enfants à l'hôpital. J'autorise, bien entendu, à ce qu'ils fassent du sport en club. Par contre, j'interdis à ce qu'ils soient surclassés. On ne fait pas d'efforts supplémentaires. Par contre, l'activité physique régulière, je les encourage à le faire. Ensuite, il y a des aménagements sur le temps où ils sont à la piscine. La piscine, c'est des baignades courtes. Et puis, il faut avoir la serviette sur le bord de la piscine, pas dans le vestiaire, pour pas que l'enfant se refroidisse. Parce que quand on se refroidit, ça peut déclencher une crise. Et puis après, va y avoir aussi le temps des examens. Donc, sur les périodes d'examen, on insiste pour qu'on puisse mettre en place un tiers-temps supplémentaire. Alors, tous les enfants n'en ont pas besoin. Mais moi, je trouve que c'est une petite assurance supplémentaire pour un jour où ils sont un peu plus fatigués. Si ce jour-là, ils ont un peu plus de fatigue et que c'est le jour de l'examen, le jour du brevet ou le jour du bac, ils savent qu'ils vont avoir 20 minutes de plus ou une demi-heure de plus ou 30 ou une heure de plus pour pouvoir terminer leur examen. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important parce que ne serait-ce que le stress des examens, ça peut aussi déclencher une crise douloureuse. Donc, en fait, il y a cet accompagnement sur tout le temps scolaire et le fait que l'enfant soit identifié comme ayant cette maladie-là, c'est un plus, en fait, notamment vis-à-vis des professeurs et de l'équipe éducative. Ce n'est pas un enfant feignant, c'est un enfant malade.
Merci. Une autre question?
Est-ce que c'est possible de guérir de la drépanocytose?
Alors, on a dit que c'était une maladie génétique, d'accord? Donc, la maladie génétique, en fait, on l'a dès la naissance et en fait, jusqu'à ses 101 ans, on a la maladie génétique. Donc, théoriquement, ce n'est pas une maladie qui se guérit, entre guillemets, dans le sens où on restera toujours dans ses gènes, on restera toujours homozygote SS, par exemple. Par contre, on peut soigner. Donc, il y a plusieurs choses. Pour soigner, entre guillemets, définitivement la maladie, il y a des options qui sont lourdes sur le plan thérapeutique. Il y en a une qui s'appelle la greffe de moelle osseuse, d'accord? C'est-à-dire qu'on va regarder si l'enfant qui est malade, s'il a un frère ou une sœur qui n'est pas malade déjà, et si ce frère ou cette sœur est HLA compatible. Parce qu'on ne peut pas faire des greffes comme ça au hasard. Il faut qu'il y ait une compatibilité entre l'enfant malade et son frère ou sa sœur qui va donner sa moelle. Donc la moelle, en fait, c'est l'usine de fabrication des globules rouges et ça se situe dans les os. D'accord ?
Si je peux me permettre, il faut obligatoirement que ça soit une personne de la même famille.
Alors vraiment, dans la drépanocytose, ce qui marche, c'est les greffes intrafamiliales. Parce qu'en en fait, on a une mortalité, enfin des complications qui sont beaucoup plus réduites que quand on le fait en extrafamilial, ça ne marche pas bien.
D'accord.
Donc on va le faire en intrafamilial, c'est ce qui va être le plus efficace. Mais c'est un traitement très lourd, la greffe, hein. C'est-à-dire qu'on va, en gros, on va tuer, on va irradier la greffe de l'enfant, la moelle de l'enfant qui est malade. C'est-à-dire qu'il ne produit plus rien, il ne produit plus de globules rouges, il ne produit plus de globules blancs, il ne produit plus de plaquettes. Et on va injecter la moelle du frère ou de la sœur. Et en fait, c'est cette moelle-là qui va se remettre, en fait, qui va redémarrer la production. D'accord ? Donc en fait, on a importé une moelle extérieure qui va faire le job à la place, d'accord, du frère ou de la sœur qui était AA ou qui était AS. Donc, c'est des traitements très, très lourds. Et ça implique que le frère ou la sœur, on lui fasse quand même une anesthésie générale pour lui ponctionner sa moelle. Donc, pour les parents, c'est quand même, ça nécessite un gros accompagnement. Et puis après, on a des patients qui n'ont pas de frère ou sœur HLA compatible, mais qui sont vraiment très, 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 très sévères dans leur maladie. Et là, on est sur de l'expérimental, c'est la thérapie génique. D'accord ? Donc, la thérapie génique, c'est-à-dire qu'on va prendre la moelle de l'enfant malade. Alors, à chaque fois, je dis enfant parce qu'en fait, comme j'ai une pratique pédiatrique, mais du patient malade, on va prendre sa moelle, on va la modifier génétiquement en laboratoire et on va la réimplanter. Donc, ça, c'est particulièrement lourd. C'est très expérimental. On a très peu de recul au jour d'aujourd'hui. Mais pour l'instant, les quelques personnes qui en ont bénéficié sur le territoire, pour l'instant, on a une réponse qui est plutôt encourageante. Mais le recul, il n'est vraiment pas suffisant.
D'accord, donc c'est encore trop tôt pour pouvoir dire...
C'est très, très, très tôt. Enfin, à l'échelle de la science, en fait, il faudrait 20, 30 années de recul. On n'y est pas encore. Donc ça, c'est compliqué. Et en fait, on a guéri la moelle du patient. Mais on n'a pas guéri le reste. C'est pour ça que ce n'est pas une guérison complète, en fait. On aura guéri juste le symptôme. Voilà. Il ne va plus fabriquer d'hémoglobine S. Ça va être remplacé par de l'hémoglobine A, essentiellement. Donc, il n'aura plus ces symptômes-là de la maladie. Mais il y a quand même nécessité de continuer à surveiller certaines choses.
Très bien, merci.
Cette question, je voulais juste dire. Le patient, il reste fragile à ça, même s'il est guéri. En soi, il est, même s'il n'a plus le gène S.
Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que sur les premières années qui suivent la greffe de moelle, par exemple, on va continuer à surveiller parce qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas eu un rejet. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas eu d'autres complications derrière, d'accord ? Donc, ils vont continuer à être suivis. Et puis, des fois aussi, il y a besoin d'un accompagnement psychologique parce que c'est quand même un traitement très, très, très lourd. Et donc, ça nécessite que la personne, elle soit soutenue, que la famille soit soutenue, que le patient soit soutenu sur le plan psychologique. Parce que ce n'est pas anodin de dire, ben, hier, j'avais la drépanocytose et puis maintenant, ben, je n'ai plus rien. Donc, il y a toute cette surveillance-là qui continue à se faire, même si techniquement, la maladie n'est plus là. Il y a quand même des choses qu'il faut continuer à surveiller. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Ouais, ouais.
S'il y a une personne qui a une autre question, éventuellement.
Mais vas-y. Aussi, en fait, on devait faire des recherches et on avait vu qu'apparemment, les yeux, ils deviennent un peu jaunes.
Oui.
Pourquoi ça, ils deviennent jaunes hein?
Ça, c'est les symptômes en fait associés à l'anémie. Parce que en fait, dans la drépanocytose, on a ce qu'on appelle une anémie hémolytique. C'est-à-dire que les personnes anémie, ça veut dire je fabrique pas assez de globules rouges. C'est-à-dire, je fais une prise de sang. Normalement, quand on fait une prise de sang, un adulte doit être entre 12 et 16 grammes d'hémoglobine. Dans la drépanocytose, on a une grosse anémie. Les patients, des fois, ils sont à 7 grammes, 8 grammes, 9 grammes. C'est très inférieur. Très inférieur à la moyenne. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que leurs globules rouges, ils vont avoir tendance à se détruire plus vite. Au lieu d'avoir des globules rouges qui ont une durée de vie de 3 mois dans le sang, eh ben, ils vont avoir des globules rouges qui ont une durée de vie de 3 semaines. Or, le globule rouge, quand il se détruit, qu'est-ce qui se passe? En fait, il va libérer l'hémoglobine. L'hémoglobine, elle est dans le globule rouge. Donc, en fait, l'hémoglobine, elle va se retrouver dans le sang circulant, dans le plasma. Et donc, du coup, au début, elle est rouge, l'hémoglobine, mais en fait, elle va se dégrader. Et le fait de se dégrader, elle va être rouge, après, elle va devenir violette, un peu bleue, et ça va se terminer en jaune. Comme quand on se fait un bleu, en fait. Au début, c'est très rouge, après, ça devient un peu violet, bleu, et puis après, ça devient jaune tout à la fin. C'est exactement la même chose qui se passe, sauf que du coup, ben, en fait, ça va se déposer au niveau des yeux et dans les urines. Les urines vont devenir très, très, très foncées. Ça, c'est à cause de l'hémolyse, et c'est ce qu'on appelle l'ictère. Ça veut dire qu'on détruit beaucoup de globules rouges.
Est-ce que c'est seulement les yeux qui deviennent rouges, ou est-ce que ça va atteindre la vision? Est-ce que ça va poser problème au niveau de la vision ou pas?
Alors, l'ictère ne va pas avoir une atteinte sur la vision. Par contre, dans la drépanocytose, on peut avoir des complications au niveau de la rétine. Notamment chez les personnes, plus on va évoluer vers l'âge adulte, et plus on va avoir ces risques-là. C'est ce que je disais au début, c'est une maladie un petit peu insidieuse, parce qu'en fait, les complications chroniques, elles vont s'installer au fur et à mesure. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au niveau des yeux, les capillaires, ils sont très, 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 très fins. Et donc, il va se mettre en place ce qu'on appelle une rétinopathie. Et la rétinopathie, effectivement, ça peut donner des problèmes au niveau de la vision. Mais ce n'est pas le même mécanisme que l'ictère.
Merci.
Quand la maladie a-t-elle été découverte?
Alors, elle a été découverte maintenant il y a plus de 100 ans. Donc, l'histoire, en fait, de la découverte de la drépanocytose, en fait, ça a été découvert aux États-Unis chez un étudiant en dentaire, un étudiant dentiste, qui faisait des crises douloureuses. Et en fait, on a observé en faisant la prise de sang, en faisant le frottis, que en fait, ces globules rouges, au lieu d'être arrondis, ils avaient une forme de petit croissant, de petite faucille. Et en fait, en anglais, la faucille, c'est « cycle ». Donc, on dit « cycling » parce qu'en fait, le globule rouge, il prend une forme de croissant de lune comme ça. Donc, ça fait plus de 100 ans que la maladie a été identifiée sur un plan biologique.
Wow. Aux États-Unis.
Oui.
Donc, donc là, vous avez dit par un dentiste.
Un étudiant dentiste.
Mais c'était lui qui était concerné.
C'est lui qui était malade.
Donc, c'est lui-même qui a découvert.
Été découvert par un autre médecin, mais du coup, il s'avère qu'il était dans le domaine médical.
Et en France?
Est-ce
que c'est apparu en France?
Apparu en France, ça, je ne saurais pas
apparu,
dire.
Mais plutôt, où est-ce qu'on a commencé à découvrir la maladie et,
Après, vous savez, les découvertes de maladies, après, dans le monde scientifique, tout le monde après a l'information.
D'accord.
Enfin, tout le monde a accès à l'information.
Et pourquoi ça atteint que les personnes noires?
Alors, ça n'atteint pas que les personnes noires. Ça atteint majoritairement les personnes, effectivement, à peau noire, peau foncée. Parce que, en fait, ce qu'on disait au début, la maladie, elle est apparue dans les zones de pression du paludisme. Donc, il y a eu, en fait, il y a plusieurs mutations du S, mais il y a eu une mutation bantou, une mutation Cameroun qui sont apparues en Afrique centrale. Après, avec le commerce triangulaire, en fait, ces populations-là ont été exportées vers l'Amérique du Sud, donc Salvador de Bahia au Brésil, par exemple. Il y a une autre mutation qui est plus apparue vers l'Afrique de l'Ouest, donc c'est les mutations Sénégal-Bénin, et eux se sont retrouvés sur la Caraïbe, l'Amérique du Nord. Après, à côté de ça, il y a une mutation sur la péninsule arabo-indienne, donc ce qu'on appelle le Mashrek et le sous-continent indien. Et là aussi, on a tout un bassin de population de personnes qui ont le trait S. Et puis après, il y a eu tous les mouvements de population aussi en interne. Et donc, vous avez par exemple la mutation bénin qui se retrouve sur le pourtour méditerranéen. Après, maintenant, il y a toutes les migrations économiques qui font que finalement, on retrouve les gènes un peu partout.
Avec la mixité, avec...
Exactement. Mais par exemple, c'est ce que je dis, il y a des gros centres de référence de la drépanocytose, par exemple, comme des pays comme la Grèce, comme la Turquie, où en fait, les gens ne sont pas forcément afro-descendants. Or, ils ont quand même des formes de drépanocytose SS.
D'accord.
En Europe du Sud, en Italie, en Sicile, etc.
D'autres questions ? C'est bon pour vous ? Oui ?
Oui.
Donc, juste avant de faire une nouvelle petite pause musicale, Tia, est-ce que tu aurais peut-être une dernière question ?
Oui, tout à fait, Sonia. Comment aujourd'hui, justement, à part les radios, comment on peut mobiliser encore plus de monde au niveau...
travers les médias ?
Voilà, à travers les médias, oui.
À travers les médias, à part faire des interventions. Alors, moi, je ne suis pas une spécialiste de la communication, mais effectivement, faire des campagnes à l'occasion de la Journée mondiale de la drépanocytose, faire des campagnes aussi à l'occasion de la Journée mondiale du don du sang, par exemple, parce que je vous ai dit, dans la drépanocytose, il y a de l'anémie chronique. Et on a un pourcentage des patients qui ont besoin d'être transfusés régulièrement, tous les mois, par exemple. Donc, du coup, ça aussi, ça peut être un relais d'information, le don du sang. Et notamment, en ce moment, on a pas mal de campagnes de collecte autour du don du sang dans la drépanocytose qui sont organisées. Nous, au niveau de la ville de Paris, il y a une collecte là qui est prévue bientôt au siège de la direction de la santé publique le 18 juin, la semaine prochaine, par exemple, où l'idée, c'est que les personnes qui n'ont jamais donné avant viennent donner et deviennent des donneurs réguliers. Et idéalement, effectivement, si on peut avoir plus de donneurs plutôt afro-descendants ou autres, on est très preneurs parce que ça sera du sang plus compatible pour des patients atteints de drépanocytose.
Je te remercie.
C'est quand cette journée ?
Donc le 18 juin, donc jeudi de la semaine prochaine, il y a une collecte au siège de la direction de la santé publique, rue Boucry, dans le 18e.
Et la journée mondiale de la drépanocytose, c'est le 19.
Ça sera le 19. Voilà.
D'accord.
En fait, l'idée, c'était de caler cette journée entre la journée mondiale du don du sang, qui est le 14 juin, et la journée mondiale de la drépanocytose, qui est le 19 juin.
Très bien. Merci beaucoup. Donc, je vous propose de faire une petite pause musicale et de revenir pour une autre partie afin de parler de la maladie et de la santé mentale. Et des différents centres existants pour pouvoir aider toutes les personnes concernées.
Elle c'est vagabond, ça pas qu'à bon pour moi. Non, les vagabonds pour moi. La femme fou, d'un coup y'a de la doigt douce. En manque, j'en le cas douce. Oh baby, baby, baby boy, stop. C'est moi qui on top. Garde tes paroles, j'ai dit non, non, non. Tu jouais un rôle, mais c'est non, non, non. Oh, 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 oh. Gade chéri, ou pa vle tende. Ou pa wè gentil garçon, sa pa mérite ou. Ou get wap shine chéri, ou tro fly. Dili bye bye baby. Nou son lot bagay.
Lage, li lage, lage l'eau.
Pa vle tise, pa vle tise.
Lage, li lage, lage l'eau.
Lage l'eau. Gade chéri, ou di kem mauvais. Mais à chaque fois c'est vous qu'on retourne. Mon quand shine baby, mon trop fly. Mon pas les perdre ou chéri, pas dis moi bye bye. Pas la game, pas la game, pas la game no. Pas la game, pas la game, pas la game no. Ou pas l'étendre, ou pas ouais gentil garçon ça pas mérité ou. Ou get wap shine chéri, ou trop fly. Dili bye bye baby,
nous son l'autre bagay.
Lage, li lage, lage l'eau. Pas bêtise, pas bêtise.
Lage, li lage, lage l'eau.
Lage compa.
Lage, 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 lage,
t'as le cœur doux. Tu pardonnes trop vite. Mais l'y fait même bagaille là, l'y retourner, l'y répéter, l'y. Il fait le gentil quand ça l'arrange. Après l'y fait au plaider. Oh, oh, oh. Chérie, stop ou pas, on jouait tout.
Non, je commence à avoir faim, mon ventre.
Vas-y.
Une bonne maladie.
De retour sur Mon Paris Santé avec le docteur Assa Nyakate Tal et notre chroniqueuse Tia, toujours la présence de nos jeunes. Rebonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour, toi, bonjour Sonia.
Alors, juste avant notre petite pause, le docteur avait pris le temps de répondre à la question que nos jeunes avaient préparée sur les origines de la drépanocytose notamment. Là, j'aimerais bien qu'on traite de la santé mentale et la drépanocytose et l'handicap invisible en général. Donc, vous avez dit tout à l'heure que c'était considéré comme un handicap invisible. Donc, on évoque souvent quand on parle de la maladie et puis depuis le début de l'émission, les douleurs physiques, les handicaps physiques qu'elle peut apporter au quotidien. Pourtant, la maladie, on peut dire qu'elle a aussi des conséquences psychologiques importantes. Donc, ma première question, ça serait quel impact la maladie peut-elle avoir sur la santé mentale ? Les patients, est-ce qu'ils souffrent plus d'anxiété ou de dépression ? Comment on différencie les deux ? Comment les adolescents, comme c'est une maladie donc, qui peut être présente dès l'enfance, comment on gère ça en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, en tant que jeune adulte, en tant qu'adulte accompli ?
Alors, la question, elle est complexe parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse type. Ce qu'on peut dire, c'est que la drépanocytose, c'est une maladie de la douleur, douleur chronique, d'accord ? Effectivement, ça évolue avec des accès de crises douloureuses, mais on a quand même un panel de patients qui ont toujours un fond douloureux permanent. C'est-à-dire qu'il y a un fond douloureux. À un moment, il y a une crise, donc ça va monter, on va avoir un pic, et puis ça va redescendre, mais on ne redescend jamais à zéro. Et donc, ils sont en permanence dans de la douleur chronique. Et ça, effectivement, ça peut avoir un impact en fonction du tempérament de la personne. Ça peut effectivement, et puis des parcours de vie de chacun, ça va avoir un impact effectivement sur la santé mentale. On va avoir d'autres personnes qui vont avoir un épisode, une complication très, très sévère de la maladie à un moment donné. Et ça, effectivement, ça va induire des fois des situations de syndrome post-traumatique. Ça, c'est décrit dans la littérature chez les patients qui ont la drépanocytose, des situations de syndrome post-traumatique. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'il y ait un accompagnement psychologique qui soit proposé tout au long du suivi des patients. Et c'est pour ça aussi que je reviens sur l'organisation nationale. On a une organisation en filière de santé et on a des centres de référence où on a des psychologues cliniciennes qui sont spécialisées dans la prise en charge de la drépanocytose et qui accompagnent les patients au quotidien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et on a vraiment un réseau national de psychologues cliniciennes spécialisées dans la drépanocytose et qui aide énormément les équipes médicales à accompagner les patients dans ces situations qui sont vraiment des situations complexes. Après, moi, à titre personnel, je ne suis pas une spécialiste de la santé mentale, mais en tout cas, y a ces ouvertures-là. Et dès la pédiatrie, il y a ces accès qui sont facilités.
Et est-ce que... pourquoi c'est considéré comme un handicap invisible ? Est-ce que ça a été... un combat de faire accepter ça en tant qu'handicap invisible ? Est-ce que ça s'est fait naturellement ? Parce que je sais que pour certaines maladies, c'est plus compliqué à faire accepter. Comment ça s'est passé pour la drépanocytose ? Et qu'est-ce qui fait qu'on peut considérer que c'est un handicap invisible ?
Alors, le handicap invisible, c'est par définition, c'est le handicap qui ne se voit pas. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui a un syndrome drépanocytaire majeur, quand il n'est pas en crise, il va très bien. Dans une salle de classe, dans une salle de travail, dans une salle de classe, par exemple, c'est pas un enfant qu'on va identifier, d'accord ? En dehors d'une crise, on ne va pas identifier que telle personne est malade et telle personne ne l'est pas. Après, le combat, il a beaucoup été porté par les associations, et par les professionnels, effectivement, pour la reconnaissance de la maladie, notamment auprès des MDPH ou autres. Donc, il y a eu tout un travail qui a été fait. Alors, moi, à l'époque, je n'étais pas encore dans la Drépano. Ça remonte à avant que je démarre. Mais effectivement, il y a eu des réunions, des concertations qui ont permis que la drépanocytose fasse partie des maladies prises en charge à 100% par la Sécurité sociale, qu'effectivement, il y ait une reconnaissance en tant que travailleur handicapé par les MDPH. Donc ça, c'est un combat quotidien, on va dire. Et en fait, ce combat, il est surtout efficace quand il est porté par le milieu associatif, par les représentants, en fait, des patients. Et c'est ça qui est vraiment important. Nous, on a notre rôle en tant que référents médicaux. Voilà, on est factuel et on va expliquer les choses. Mais le quotidien, il va surtout pouvoir être exprimé par les associations et les représentants des patients, surtout. Donc, en fait, c'est un travail un peu en binôme.
Et est-ce que, donc, par rapport aux consultations qui peuvent avoir les patients psychologiques, par exemple, voir un psychiatre, un psychologue, est-ce qu'il y a une prise en charge aussi à ce niveau-là, parce que ça a un certain coût, ou est-ce que c'est comme tout le monde, malheureusement, à peu près la majorité des personnes, c'est à leur charge, et puis voilà.
Alors après, il y a plusieurs options possibles. Donc, quand je vous ai parlé du réseau de psychologues cliniciennes, elles sont intégrées à la prise en charge. Donc, en fait, quand ils ont accès à ces consultations-là, on ne va pas leur envoyer une facture, entre guillemets, en disant, ben voilà, c'est une consultation de psychologue, c'est à vous de payer de votre poche, etc. Non. Ensuite, il y a d'autres personnes qui, par exemple, d'autres patients qui vont faire un suivi à titre personnel avec une psychologue en ambulatoire. Et là, on va rentrer dans les mêmes conditions qu'une personne lambda. Donc, il y a les deux cas de figure. Mais en tout cas, effectivement, quand c'est une orientation en interne au sein du centre de référence, ça fait un peu partie du package quand on a une psychologue qui est présente.
Bien, et en parlant toujours des prises en charge et de ce que les patients peuvent avoir ou non, je crois que Tia, tu avais une question.
Oui, tout à fait. J'avais une question qui me turlupinait, en fait. Je voulais savoir, y a-t-il des traitements, des possibilités au niveau de la douleur? Peut-on accompagner les personnes qui sont dans cette situation de maladie par un professionnel pour justement arriver à gérer la douleur?
Oui. Alors, là, effectivement, il y a plusieurs niveaux de prise en charge pour la douleur. Déjà, premièrement, c'est la prévention. On sait que telle personne va être plus sensible au froid, donc on va lui conseiller de ne pas s'exposer au froid. Dans 50% des cas, on arrive à retrouver la cause de la crise survenue de la crise douloureuse. Donc, on va travailler sur ces aspects-là. Ensuite, une fois que la crise est installée, il y a ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire que tout au long, en fait, on va apprendre au patient à reconnaître sa douleur, à l'identifier et à la gérer en ambulatoire. Donc au début, c'est avec les parents et puis après, c'est lui en tant qu'adulte. Donc dans le cas de l'éducation thérapeutique, on sait qu'on commence par des antalgiques de palier 1, ensuite on passe à des paliers 2 et si ça ne marche pas, on va aux urgences. Ensuite, aux urgences, je vous l'ai dit, on a des protocoles nationaux. La personne arrive, elle déclare qu'elle a la drépanocytose. On va mettre en place les protocoles de prise en charge spécifiques pour les patients drépanocytaires. Et notamment, on va proposer la morphine. Or, la morphine, c'est vraiment un outil clé dans la prise en charge de la douleur des patients. Donc là, je parle vraiment des crises classiques, des crises douloureuses classiques. Après, il y a certaines situations où, des fois, on a besoin de faire une transfusion, un échange transfusionnel, parce que vraiment, la douleur, elle ne cède pas. Donc ensuite, ça va être du cas par cas, mais tout ça, c'est quand même bien protocolisé et c'est connu. Ça, c'est pour la partie prise en charge médicamenteuse. Après, il y a aussi la prise en charge non médicamenteuse de la douleur. Et elle est très importante, celle-là. Nous, en pédiatrie, on l'utilise beaucoup. Tout ce qui va être la distraction, c'est-à-dire proposer un casque virtuel à l'enfant. Ça permet de donner moins de doses en fait, d'antalgiques, de moins donner de morphine. Proposer le casque virtuel, proposer la TENS. En fait, c'est la stimulation avec des petites électrodes qu'on place à l'endroit où l'enfant a mal. Donc tout ça, c'est des choses qui se travaillent et c'est du non médicamenteux et ça permet de limiter la prise de morphine ou d'antalgique à forte dose.
Je te remercie.
Pour revenir sur la morphine, hier nous avons reçu donc, le témoignage de Mélissa, une jeune femme atteinte de drépanocytose, et elle m'expliquait que parfois ça pouvait être compliqué aux urgences parce que comme donc, les personnes atteintes doivent prendre de la morphine et que c'est souvent sous piqûre, on pouvait les confondre avec des personnes donc, toxicos, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, et que ça pouvait être donc compliqué à l'instant T de leur dire « non, là, c'est une vraie crise de drépanocytose, ce n'est pas une addiction à la morphine ou autre. » Donc, parce que voilà, il y a ces problèmes d'addiction et en plus de ça, donc, c'est visible sur leur corps avec les piqûres. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose quand on est reçu à l'hôpital pour éviter ce genre de questions qui peuvent être qui peuvent être mal prises par les malades quand ils viennent et d'être accusés comme ça de
d'addiction. Alors c'est vrai que dans nos échanges, on a effectivement de temps en temps ce type de témoignage de patients qui déclarent être venus aux urgences et qui ont dû insister pour recevoir la morphine. Donc ça, c'est des choses qu'on travaille vraiment de façon pluridisciplinaire parce que en fait, un patient qui est en crise douloureuse drépanocytaire, c'est pas un toxico. Il a pris les antalgiques à la maison, ça n'a pas suffi. On a besoin de monter en fait de palier et donc on doit appliquer le protocole. Donc, en fait, souvent, je pense que c'est peut-être parce qu'ils sont reçus à ce moment-là, peut-être par quelqu'un qui ne connaît pas la procédure ou je ne sais pas, parce que à chaque fois, c'est du cas par cas, mais peut-être par des personnes qui sont nouvelles ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser la morphine et du coup, qui peut-être vont préférer attendre avant de mettre en place, etc. Mais c'est une prise en charge protocolisée. Un patient qui arrive, qui a déjà pris tous ses antalgiques à la maison, on passe sur un palier 3.
Oui, parce que ça devrait se voir sur le dossier du patient que la personne est atteinte de drépanocytose.
Bah oui.
Éviter ces questions qui peuvent ajouter en plus de ça de l'anxiété, parce que si on doit partir aux urgences et se dire « Bon, maintenant, je dois prouver que je ne suis pas une toxico. » Et partir avec ce mindset-là à l'hôpital, ça doit rajouter, comme on
ça parle. Rajoute, oui. Bah oui.
C'est pas,
On va à l'hôpital pour trouver le soulagement, pas pour être encore plus stressé.
Voilà, justifier davantage.
Mais bien sûr, je suis d'accord.
On est réellement malade.
Je suis d'accord.
Justement, si je peux me permettre, Sonia, y a-t-il un mot qu'on peut placer justement quand on n'arrive pas à détecter justement les personnes qui sont dans cette situation-là pour ne pas blesser en fait la personne.
En fait, le souci, c'est que la personne, elle arrive, elle est douloureuse, elle a une douleur à 7, 8, 9 sur 10. Elle n'est pas vraiment dans une posture de négocier quoi que ce soit. Donc, elle arrive, elle annonce qu'elle a une drépanocytose. Et normalement, derrière, ça doit être automatique. On doit mettre en place la prise en charge optimale pour que sa douleur, elle cède. Parce qu'en fait, le problème, c'est que plus une douleur, elle traîne sur la durée, plus c'est difficile de la faire disparaître. Et c'est là où je vous parlais des situations de syndrome post-traumatique un petit peu. En fait, la douleur, il faut l'attaquer dès le départ. Il faut l'attaquer dès le départ, il ne faut pas lui laisser le temps de s'installer.
Mélissa m'a parlé du fait qu'elle pouvait sentir quand elle allait potentiellement avoir une crise. Et donc, soit gérer en amont et la contrôler, on va dire, si on peut utiliser ces termes-là, ou soit savoir qu'elle devait tout de suite se rendre à l'hôpital. Est-ce que c'est quelque chose que vous apprenez donc aux patients dès leur plus jeune âge ou c'est quelque chose qui se fait juste naturellement? Enfin, je pense que ça peut aussi se faire naturellement, mais est-ce que c'est quelque chose que vous enseignez dans leur suivi?
Alors, c'est un mix des deux. Donc, effectivement, il y a l'expérience propre du patient. Il est son premier médecin. C'est lui qui connaît le mieux ses propres symptômes. Et puis, il y a aussi tout au long de la vie, parce que c'est, comme je dis, entre guillemets, ça fait partie du package. Il y a la possibilité d'accéder à l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a les consultations médicales, il y a les prises de sang, il y a les examens qu'on fait, mais il y a aussi l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'à plusieurs fois, à plusieurs reprises, on va se poser avec le patient, soit en individuel, soit en collectif, et on va reprendre les éléments de la prise en charge. telle qu'elle doit être faite à domicile, etc., etc. Donc, il va y avoir des thématiques sur comment je dois prendre en charge la douleur, comment est-ce que je dois gérer la scolarité. Donc, tout ça, c'est des thématiques qui sont récurrentes dans les, en éducation thérapeutique et ça se fait tout au long, en fait, du suivi du patient.
Bien, merci. Est-ce que Tia, tu as une autre question ?
Non, je voulais poser la, la même question, mais c'est bon, tu as tout les dit. Enfants. Merci, c'est, pas, c'est très bien.
Non. Bien, devant le micro.
Du coup, le suivi, il est. Bah, du coup, il est chronique jusqu'à la, la fin.
À vie ?
Ouais, elle est à vie.
Tout à fait, tout à fait. Donc, du coup, on a le dépistage néonatal. Quand l'enfant a 2 mois de vie, il est convoqué avec ses parents à l'hôpital de référence, qui va faire l'annonce en disant, ben voilà, monsieur, madame, votre enfant a été dépisté à la maternité, on vient de recevoir les résultats, il est malade, mais on doit recontrôler sur un deuxième prélèvement. Ils sont revus quelques jours plus tard pour confirmer le diagnostic. Hélas, dans 99,9% des cas, on confirme le diagnostic de drépanocytose, et ensuite, on met en place le suivi pédiatrique. Donc, le suivi pédiatrique, c'est tous les 3 mois. L'enfant va être vu régulièrement à l'hôpital parce qu'on va mettre en place des traitements antibiotiques pour lutter contre les infections. On va s'assurer qu'on a bien renforcé le calendrier vaccinal. Ils ont des doses de vaccins en plus à cause de leur sensibilité aux pneumocoques notamment. Et puis, on va régulièrement s'assurer de la survenue d'une crise douloureuse ou pas et identifier chez les parents, leur dire, ben voilà, il faut savoir reconnaître la pâleur chez votre enfant. Quand votre enfant est fatigué, qu'il tète mal, qu'il finit pas ses biberons, qu'il devient pâle, alors c'est pareil, la pâleur chez quelqu'un qui a la peau noire, ben il faut expliquer aux parents. Vous regardez la paume des mains, vous regardez la plante des pieds de votre bébé.
Et ce n'est pas visible de la même façon selon la couleur.
Voilà, exactement. Mmh. Et ça, la plante des pieds, pour tout le monde, c'est pareil. La paume des mains, pour tout le monde, c'est pareil. Donc ça, c'est des choses en fait qu'on apprend au fur et à mesure. Tout ça, ça fait partie aussi de l'éducation thérapeutique. Donc tous les 3 mois, on vérifie ces éléments-là. Et puis après, quand l'enfant est plus grand, on va passer à tous les 6 mois. Et le relais chez l'adulte va se faire de la même manière. Les adultes les voient à peu près 1 à 2 fois par an en consultation. Okay. Avec chaque année, voilà.
Prolongé quand même.
Voilà. Oui, parce que l'adulte, bah, il est dans la vie active, voilà. Il travaille, il a sa vie de famille. Donc voilà, s'il n'est pas très symptomatique, un suivi annuel, des fois, ça peut suffire. Et puis, on a ce qu'on appelle le bilan annuel, c'est-à-dire qu'une fois par an, on fait un check-up. Check-up complet.
Je voudrais juste, donc, avant de passer à un autre thème, on va dire, du sujet, est-ce qu'on peut, dernière question, est-ce qu'on peut, donc, quand on sait qu'il y a un homme, une femme qui ont la possibilité de... qui sont porteurs du gène et donc qu'il y a la possibilité pour le futur enfant d'être porteur malade. Uh-huh. Est-ce que la grossesse est prise en charge autrement ou est-ce qu'on ne peut vraiment rien faire et on doit attendre la naissance pour pouvoir...
Alors, il y a plusieurs choses. On a un couple à risque, d'accord. Déjà, est-ce qu'ils souhaitent savoir à l'avance si l'enfant va être malade ou pas? Il y a des personnes qui ne souhaitent pas savoir, qui disent, ben non, il va être dépisté à la naissance. Moi, laissez-moi tranquille, voilà. Je gère ma grossesse comme une grossesse classique. Et donc là, on ne les embête pas. Ensuite, il y a les couples à risque qui vont dire, ah ben écoutez, docteur, madame, elle est déjà enceinte ou je suis déjà enceinte. Moi, je connais la drépanocytose autour de moi. J'ai besoin de savoir si ce bébé va être malade ou pas. Donc là, on va orienter sur le conseil génétique et on va être dans une procédure de diagnostic prénatal. C'est-à-dire qu'on va tester pendant que la femme est enceinte si c'est un enfant malade ou pas.
Donc, on peut le savoir avant la naissance de l'enfant.
On peut le savoir dès le 3e mois de grossesse. On peut savoir si ça va être un bébé malade ou pas. Par des process biopsie trophoblast ou amniocentèse, etc. Dans 3 chances sur 4, dans 75% des cas, ça ne sera pas un enfant malade. Dans 25% des cas, ça risque d'être un enfant malade. Et donc là, après, on n'a pas tellement d'options qu'on puisse proposer. On va demander, est-ce que vous suivez poursuivre cette grossesse ou est-ce que vous suivez l'interrompre?
Même après 3 mois.
Oui. En fait, parce qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle l'interruption médicale de la grossesse. Ce n'est pas une IVG. C'est une interruption pour des raisons médicales. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Enfin, c'est le deuxième cas de figure. Et après, le troisième cas de figure, c'est les personnes qui disent, ah ben non, Moi, pour moi, c'est impensable d'arrêter une grossesse qui a été démarrée. On a un peu le temps, on n'est pas pressé tout de suite. À ce moment-là, on veut faire de la fécondation in vitro. C'est ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire. C'est-à-dire qu'on va prélever les gamètes de monsieur, prélever les gamètes de madame. On va faire la fécondation au laboratoire et on va tester les embryons. Et si c'est un embryon AA ou AS, donc pas malade, là, on va l'implanter. Et on saura que c'est forcément une grossesse d'un enfant qui n'est pas malade.
D'accord. Merci.
Donc,
merci
tout ça, c'est possible.
Donc, je vais vous proposer de faire une dernière petite pause musicale avant de revenir et de parler du dépistage et des différentes ressources qui sont mises à disposition, bah, notamment en France, mais aussi un petit peu dans le monde, afin de pallier à cette maladie. Pour cette dernière partie de l'émission, nous allons parler d'accompagnement et de ressources utiles pour les auditeurs. Docteur, dites-nous, où est-ce qu'on peut se faire dépister dans un premier temps?
Alors, donc, du coup, pour la ville de Paris, on a une structure qui s'appelle le Centre d'information et de dépistage de la drépanocytose, que je coordonne, qui est basé dans le 13e et on a une annexe dans le 18e. Donc, c'est un centre de dépistage gratuit, c'est-à-dire que c'est ouvert au grand public. Les gens peuvent venir. Alors, idéalement, c'est sur rendez-vous. Hein. On a un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous auprès de l'infirmière. Et l'infirmière, en fait, va faire le prélèvement. Et il n'est pas nécessaire de venir avec une ordonnance. Elle le fait directement, l'étude de l'hémoglobine, la numération et la ferritine, pour que la personne ait un dépistage complet. Ensuite, quelques temps plus tard, la personne est revue par un médecin qui va expliquer les résultats. Et c'est vrai que ça, c'est quand même important parce qu'on est quand même sur de l'information génétique et je trouve que c'est toujours un peu compliqué que les gens se retrouvent avec un résultat qui n'a pas été correctement expliqué. Donc ça, c'est vraiment la structure interne propre à la ville de Paris et on reçoit vraiment le grand public tout venant. Donc soit sur le 13e arrondissement, soit sur le 18e, on a une annexe et donc ça permet en fait d'avoir un pôle nord, un pôle sud pour recevoir les personnes.
J'ai une question Sonia, si tu peux me permettre. Oui. Je voulais te demander, y a-t-il besoin d'un rendez-vous où les gens peuvent venir se dépister comme ça
Alors avant c'était sans rendez-vous, mais maintenant en fait on a mis sur rendez-vous pour que ce soit plus simple en termes de gestion. Donc c'est-à-dire que les personnes prennent rendez-vous pour le prélèvement avec l'infirmière et elle redonne un rendez-vous pour les résultats avec le médecin.
D'accord.
Voilà. Est-ce que le CIDD est le seul centre de dépistage spécialisé?
Alors, jusqu'à 2024, on était le seul centre sur le territoire.
Très récent.
Voilà. Et là, en fait, on a participé à la mise en place d'un autre CIDD, mais à Annemasse. Donc, ce n'est pas la porte à côté, hein, pour ceux qui habitent plus vers la Suisse. Et donc, on les a effectivement accompagnés sur ce projet-là. Mais en centre de dépistage gratuit, il n'y a que le CIDD. Après, sinon, les gens peuvent aller voir leur médecin traitant qui va leur prescrire une ordonnance. Ils vont aller au laboratoire. Bon, voilà, c'est une autre dynamique.
Est-ce qu'il y a un âge pour aller se faire dépister ou... Tout le monde, tout âge
Alors, il n'y a pas d'âge. Hein. Nous, on reçoit vraiment tout le monde. Parce que, par exemple, ça nous arrive de recevoir des familles. Il y a des enfants qui sont nés en France, d'autres qui ne sont pas nés en France. Donc, en fait, on dépiste tout le monde. Après, en général, les enfants qui sont nés après 2000, il y en a même qui sont maintenant des adultes, théoriquement, ils sont censés avoir été dépistés. Mais tout le monde n'a pas ses résultats. Donc, des fois, on les voit venir aussi en disant, écoutez, moi, je n'ai pas les résultats de mon dépistage néonatal et j'ai besoin de savoir si je suis porteur ou pas.
Est-ce qu'il y a une association de patients? Car donc, Mélissa m'a fait comprendre qu'il y avait depuis peu une organisation entre les patients et les docteurs où ils échangent des informations entre eux. Donc, je ne sais plus c'est quoi les termes exacts. Pour pouvoir justement se compléter et continuer les recherches pour la maladie.
Alors effectivement, sur le plan associatif...
Je ne sais plus.
Sur le plan associatif, il y a plusieurs choses. Effectivement, on a un panel d'associations de lutte contre la drépanocytose. Alors soit c'est directement des associations de patients, soit c'est des associations de parents d'enfants malades. D'accord ? Et comme je vous l'ai dit, il y a une organisation en filière nationale Donc, filière nationale maladie rare. Donc, ça s'appelle la filière maladie des corpusculaires du globule rouge et de l'érythropoïèse fil rouge. Donc, filière MCGRE fil rouge. Ça, en fait, c'est la filière qui va regrouper toutes les maladies des globules rouges. D'accord ? Et donc, dans ces maladies des globules rouges, il y a la drépanocytose. Donc là, en fait, regroupé dans cette filière, on a les professionnels de santé, avec toute l'organisation, les centres de référence, les centres de compétences, la validation tous ensemble au niveau national du protocole national de prise en charge, etc. Et puis, il y a aussi, dans cette filière, on a les associations au niveau national qui sont référencées au niveau national. Et donc, effectivement, la filière organise, je crois que c'est une ou deux fois par an, la journée des associations, où toutes les associations sont regroupées et elles ont des temps d'échange et auxquels nous, nous sommes invités en tant que professionnels de santé.
Justement, j'allais te poser la question par rapport aux associations. Comme je suis une association humanitaire handicap, la question, donc on peut s'intégrer justement à votre association aussi.
Alors après, il faut effectivement passer par la filière en leur présentant votre projet, etc. Et puis et après, c'est eux qui référencent dans le cadre de la filière vraiment maladie rare du globule rouge.
D'accord.
Ouais.
Merci beaucoup. Avant de clôturer, dernière question, est-ce que vous avez un message à transmettre aux auditeurs aujourd'hui ?
Alors moi, je suis...
Il y a un message à transmettre, ça serait quoi ?
Ben moi, je suis partisane du dépistage, hein, vraiment. Dépistage. Pour moi, c'est information, dépistage. En fait, plus il y aura de personnes qui connaissent leur statut, moins ça sera tabou. Et en fait, il faut fluidifier la communication autour de la drépanocytose. Les connaissances, elles ont énormément évolué. La prise en charge, elle a énormément évolué. On a des perspectives thérapeutiques. On a vraiment, en termes de prise en charge, on essaie d'uniformiser au niveau national. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Mais déjà, il faut savoir si on est directement concerné ou pas. Donc, il faut d'abord se faire dépister.
Dépistage.
Et on a la chance, en plus, en France, de pouvoir le faire. Il y a plein d'autres pays où ce n'est pas possible. Donc, vraiment, c'est une chance et on passe à côté d'une opportunité, effectivement.
Merci beaucoup, docteur Hassania Katetal, d'avoir accepté de participer à cette émission.
Merci pour l'invitation.
Pour ta chronique.
Merci, Sonia,
merci
pour ton accueil.
Merci beaucoup.
Aux jeunes d'avoir joué le jeu, d'avoir participé, de s'être renseigné sur cette maladie. Je vous souhaite à toutes une bonne journée et on se retrouve pour un nouvel épisode de Mon Paris Santé qui sera sur le thème de la santé mentale. Et d'ici là, dépistez-vous et prenez soin de vous.
Merci.
Merci.
Mon Paris FM présente votre rendez-vous santé de la semaine. Mon Paris Santé,